en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'œuvre ultime dans l'art, c'était le thème de la journée du livre de l'Académie nationale de médecine qui avait lieu en septembre 2010. Canal Academy vous propose la retransmission des meilleurs extraits. Retrouvez dans ce premier volet d'une série de 4 les interventions de Jacques-Louis Binet, Philippe Bossan et Paul Léofonte. On le sait, la vieillesse, la maladie, restent imprégnées dans les dernières œuvres des artistes. C'est ainsi que Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, et Philippe Bossan de l'Académie française, nous présentent respectivement les dernières peintures de Nicolas Poussin et du Titien. Mais les épidémies comme la peste de Venise, par exemple, inspirent aussi les artistes. Paul Léofonte, ancien chef de service de pneumologie à l'hôpital Larrey, membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, nous présente quelques peintures inspirées de la peste noire. Tout de suite, on retrouve Jacques-Louis Binet pour quelques mots sur Nicolas Poussin.
À propos du tableau qui vous est projeté, c'est-à-dire le déluge de Poussin, Chateaubriand écrit dans La vie de Rancet, « Ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard, admirable tremblement du temps. » Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre, c'est leur âme qui s'envole. Et 150 ans après, Gaétan Picon reprend le terme « admirable tremblement du temps », il écrit un livre et il répond presque mot à mot à Chateaubriand, qui avait écrit « c'est leur âme qui s'envole », il répond « c'est la laine du temps qui témoigne de la vie d'une œuvre, quelques-uns des plus beaux tableaux viennent de la vieillesse du peintre. » Vous voyez, top niveau, là. Ils nous apprennent à écrire, ces gens-là. C'est effrayant. Effrayant, on a peur. On ne peut plus parler. Il faut quand même continuer. Donc, ce thème est apparu chez Gaétan Picon en 61. Il est repris dans les expositions par Jean-Louis Prat, auquel on donnera quelques mots au début de l'après-midi, avec une superbe exposition qu'il a organisée à la Fondation MAG en 89. Et puis après, c'est l'escalade. Tout le monde parle de la mort. Evelyne Artaud, 2002. Le Louvre, les funérailles de Mona Lisa. Le musée Mayol, Deadline. Christian Boltanski élargit la chose sous les verrières du Grand Palais. La Fondation Saint-Laurent, un livre d'Elizabeth Quinn. Nous croulons sous les vanités. C'est devenu la mode. Et je pense que il était bon que l'Académie reprenne le thème, car dans ce mot de l'œuvre ultime, il y a l'œuvre, mais il y a aussi la maladie, il y a aussi la mort. Il y a la lutte du talent contre la maladie, il y a la lutte de la création contre le destin, c'est toujours le destin qui gagne, car le créateur disparaît, mais l'œuvre ultime, la création, n'a pas perdu. Et on va reprendre Gaétan Picon, la projection suivante, par son premier exemple par lequel il ouvre son livre « Poussin ». Alors voilà le Poussin glorieux. 1650, Romain, le peintre du roi, avec sa toge, ses tableaux, ses châssis, sa mythologie, cette espèce de, non pas morgue, mais de supériorité évidente du premier peintre français. Et c'est ce tableau qui est reproduit partout. Comme vous le savez, vous traversez la Seine et vous le trouvez. Et Gaétan Picon a été plus loin. Nous sommes en 1650. Il a trouvé au British Museum, la suivante, le Poussin de la fin. 1664. Bon, Poussin vient de finir ses derniers tableaux. Il a perdu sa femme, il se sent seul et il tremble. Et il écrit, et je vous ai projeté ce qu'il dit, qui était merveilleux. La débilité de ma main, la débilité de ma main, tremblante, qui ne veut plus obéir ainsi que je le voudrais. Je ne perds pas courage pour cela, car cependant que la tête se portera bien, elle lui fera toujours observer les meilleures et les plus excellentes parties de ce qu'elle fait profession. Autrement dit, la main n'est qu'une servante, on peint avec sa tête, ça c'est l'immense tradition du grand siècle. Faut le faire, hein. Dans notre période qui ne voit que mauvaise image, on est perdu. Et pour cette démonstration, nous avons un double témoignage. C'est-à-dire, un des derniers tableaux de Poussin, on n'est pas sûr que ce soit le dernier, parce que ça fait partie d'une série de 4 tableaux qui sont les 4 saisons. Voilà peut-être le dernier, c'est juste avant sa mort, 1664, avec ce tableau du déluge. Et puis, il l'a signé, Et puis, en même temps, ou juste peut-être après, l'autre témoignage, Apollon et Daphné, tableau qui n'a pas pu terminer, qui n'a pas signé. Donc, l'exemple des deux, et ça c'est simple, vous traversez la Seine, 9 euros, vous voyez tout. Bon, vous avez le tableau qu'il a fait, qu'il a réussi, qu'il a signé, et le tableau qui n'a pas terminé. Et cette lutte de la maladie contre le talent, la création contre le destin, alors un grand professeur au Collège de France l'a merveilleusement analysé, c'est Jacques Tuillier, car Poussin tremble. Pour écrire, Poussin doit former séparément chaque lettre. Pour dessiner, il ne peut plus tracer une ligne droite, mais procède par brève-virgule. Surtout pour la représentation des mains et des figures, il lui est impossible de promener librement le pinceau sur la toile, de modeler une forme par touches successives et de fondre les couleurs. Donc il invente une nouvelle technique, qui est presque un pointillisme 300 ans avant. Il dépose, au bout d'une brosse dure, à la place choisie, une touche, calculée pour correspondre tout ensemble, et à la couleur, et à la valeur. Alors, grâce aux documents du Louvre, on peut, parce qu'il faut grossir un peu, la projection suivante devrait vous montrer cette espèce de grumeau, que, vous voyez l'espèce de pâté blanc qui met ici, qui met sur le coude, qui met sur le talon. Ça, c'est pas du tout le modelé du grand siècle. C'est pas du tout la leçon italienne, la suite de la Renaissance. C'est la technique qu'invente Poussin pour lutter contre sa maladie. Mais il finit le tableau et au fond, dans le tableau général, c'est assez difficile de voir ça. J'ai beaucoup traîné au Louvre pour le voir. Et vous voyez, ces photos sont pas encore très très bonnes, mais quand même, regardez, c'est pas du tout du Poussin. On a l'impression qu'il y a des espèces de verrues. Là, il y a une espèce d'abcès au niveau du talon. Et plus intéressant, le tableau qui n'a pas pu signer, qui n'a pas terminé, qui est Daphné et Apollon. Alors voyez, une touche rouge, même chose par ici, je crois. Et puis la suivante vous montre deux visages. Alors là, c'est presque un pâté. Voyez, c'est plus le modelé d'une joue, c'est une grosse tache rouge et Poussin ne signe pas le tableau. Il, fort heureusement, il est montré au Louvre, il ne faut pas se casser la tête, il n'y a personne devant. Hein. Vous pouvez presque arriver avec une loupe et vous approcher, il est bas, on voit très très bien. C'est très facile à voir. Bon, ça, l'orage, c'est plus difficile. Alors voilà l'introduction par un des plus grands peintres français pour lequel toute la critique française a énormément travaillé, qui est un des rois du Louvre. C'est Malraux qui a obligé qu'on reprenne le thème Poussin qu'on avait un petit peu oublié. Donc c'est vraiment notre patrimoine et c'est assez bien d'ouvrir la séance par cette lutte de Poussin contre le tremblement. Il meurt l'année qui suit ce tableau.
Le Titien, vous venez de découvrir un peintre dans sa toute vieillesse. Eh bien, c'est quelque chose qui m'a moi-même fasciné depuis assez longtemps. J'avais même le projet d'écrire un livre, non pas simplement sur le champ du cygne du Titien, mais sur les dernières œuvres de certains grands artistes, que ce soit des peintres, des musiciens, des écrivains. Mais ce sont surtout les peintres et les musiciens qui m'ont fasciné, parce que certains d'entre eux, bien entendu, pas tous, mais certains d'entre eux, dans leur dernier moment, se métamorphosent complètement et nous donnent quelque chose qui n'a rien à voir avec leur œuvre passée et qui, quelquefois, ouvre des chemins inattendus. Je n'ai pas écrit ce livre, peut-être que je le ferai un jour, mais je me suis concentré sur le Titien parce que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous avez ce tableau qui représente Vénus, que l'on appelle la Vénus d'Urbino, qui est une de ses premières œuvres, une œuvre de jeunesse. Vous la regardez, je prétends que c'est le plus beau corps de femme qu'on ait jamais peint. Je suis peut-être un peu partial, mais c'est tout à fait extraordinaire de la voir et de détailler la précision, la finesse, la douceur du pinceau du Titien quand il a 20-25 ans. C'est en même temps, bien entendu, cette fin de la Renaissance, Nous sommes dans les années 1500, c'est le moment où les choses vont basculer, en Italie en tout cas. C'est à la fois cette précision et cette douceur dans l'acte de peindre, mais aussi une espèce de sensualité qui s'insinue dans la peinture et que la peinture ignorait totalement jusque-là. Mais il y a autre chose. Pour bien comprendre le Titien, il faut regarder les yeux de cette Vénus. Parce que son corps est admirable et il nous fascine. Mais regardez ses yeux, regardez, essayez de deviner, de comprendre, que pense-t-elle ? À quoi pense-t-elle ? Pourquoi est-ce qu'elle vous regarde dans les yeux ? Car elle vous regarde dans les yeux, où que vous soyez. C'est la deuxième transformation de l'art du Titien. Cette fluidité, c'est la première. Et puis, l'art du portrait. Le Titien, c'est le plus grand portraitiste de cette période-là, et peut-être de toutes. Alors, j'aurais voulu pouvoir vous montrer beaucoup des portraits qu'il a fait, parce que c'est absolument fascinant. Vous regardez la manière dont il a représenté le vieux pape Paul III. Mais c'est fascinant parce que vous êtes obligé de vous poser des questions sur le personnage que vous avez en face de vous. Mais qui est-ce ? À quoi est-ce qu'il pense ? Pourquoi est-ce qu'il a l'air à la fois si roublard et si mystérieux ? Et puis vous regardez le roi d'Espagne, Philippe II, et vous vous posez également des questions parce que ce personnage devient une espèce de mystère alors qu'il vous regarde lui aussi dans les yeux. Et puis, vous regardez tous les portraits du Titien et chaque fois, vous êtes impressionné par le mystère que le Titien installe sur la toile en vous obligeant à vous poser des questions que vous n'imaginiez pas. Alors, bien entendu, il peint toutes sortes de personnages. Le jeune Anglais, dont on ne sait rien. On ne sait rien, on ne sait même pas son nom, on ne sait pas qui c'est. Eh bien, on l'a appelé le jeune Anglais à cause, peut-être, justement, du mystère de ses yeux. Mais le Titien se peint aussi lui-même. Alors là, c'est encore un peu plus roublard, si j'ose dire, parce que, pour une fois, il ne peint pas le personnage de face. C'est-à-dire que le Titien ne nous regarde pas. Alors que tous les personnages, ou à peu près tous les personnages dont il a représenté le visage, nous regardent toujours dans les yeux et nous imposent leur mystère. Alors là, c'est autre chose. Il est très vieux. Il a 85 ans. Alors évidemment, vous savez très bien qu'on peut se peindre de profil. Il suffit d'ajuster les miroirs de telle manière qu'on puisse renvoyer l'image. Et on peut se peindre de profil. Mais regardez le mystère du visage du Titien. Il est aussi grand de profil que s'il nous regardait dans les yeux, comme peut faire Rembrandt, par exemple. Il se contemple lui-même, il regarde. Comment est-ce qu'un peintre peut arriver à nous faire ressentir la lenteur qui est en train de s'installer dans ses yeux, dans son regard, dans sa tête ? Je pourrais vous montrer d'autres portraits qu'il a fait de lui-même un certain nombre d'années auparavant. On sent là une prestesse, une rapidité qu'on ne trouve plus dans ce portrait-là. Comment fait le peintre pour traduire dans une image qui, par définition, ne bouge pas, que ce personnage est en train de vieillir ? Et que sa pensée se fait lente, son regard se fait plus lent, et puis, bien sûr, son nez commence à être plus marqué, sa barbe pend, et puis vous pouvez même noter l'arthrose qui est en train de s'installer dans la main qui tient son pinceau, et par conséquent, avec laquelle il travaille. Cela dit, nous devons savoir que le Titien, de plus en plus, à mesure qu'il vieillissait, travaillait bien sûr avec son pinceau, mais de plus en plus avec ses doigts. Est-ce que c'est une nouvelle technique ? Peut-être. Mais c'est aussi peut-être la maladie qui transforme le personnage, qui transforme même sa technique. Et nous allons voir tout de suite ce que ça donne. Vous vous gardez en mémoire, bien entendu, la belle Vénus d'Urbino que nous venons de voir. C'était les 20-25 ans du Titien. Le voici maintenant à 86, 87, 88 ans. Alors, on se demande ce que c'est. J'ai vu ce tableau pour la première fois sans savoir, d'une manière tout à fait surprenante, en entrant dans la salle d'un musée, d'un palais plus exactement, en Slovaquie. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que c'était. Et j'ai fini par comprendre, c'était tout simplement écrit en dessous, mais enfin j'avais deviné, c'est le supplice de Marsyas. Vous connaissez l'histoire de Marsyas que raconte Ovid. Marsyas était un faune et il jouait de la flûte, comme font les satyres, les faunes. Et le roi Midas, qui était le roi de Thrace, a eu la sottise de dire « mais cette flûte, c'est ravissant » et de faire une espèce de provocation à Apollon qui, comme vous savez, lui joue de la lyre. Et il y a eu un petit concours entre Apollon et sa lyre et Marsyas avec sa flûte. Et naturellement, c'est Marsyas qui a perdu. Et Apollon, dont on croit toujours que c'est un dieu charmant, plein de gentillesse, simplement parce qu'il est beau et qu'il est le maître des arts, Apollon a condamné Marsyas à être écorché vif. Et c'est la scène que vous voyez sur ce tableau. Il est pendu la tête en bas. Apollon lui-même, on le reconnaît parce qu'il a sa petite couronne de laurier, est en train de l'écorcher, pendant que un personnage qui est, je suppose, Orphée, est en train de jouer de la viola da braccio, c'est-à-dire une viole de bras, comme on dit. Et puis, il y a un certain nombre de personnages qui s'approche, il y a un affreux faune barbu qui arrive avec un seau, je suppose que c'est pour ramasser le sang, pour faire du boudin. Il y a un affreux petit chien qui est en train de lécher le sang qui coule des plaies de Marsyas. Ce tableau est horrible quand on y pense. Plus on regarde les détails et plus on est effrayé. Et puis à droite, vous avez un personnage pensif que j'ai mis sur la couverture de mon petit livre, et bien sûr vous le reconnaissez, c'est le Titien lui-même, c'est une espèce d'autoportrait à peine transformé. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir ce vieillard qui de plus en plus peint n'importe comment, en inventant cette technique et avec les doigts, une espèce d'impressionnisme. Regardez derrière le joueur de viol. Est-ce qu'on voit le ciel ? Est-ce qu'on voit les arbres ? Est-ce qu'on voit les feuilles ? On ne sait pas. On ne sait rien. Mais le Titien est là et il est en train de méditer en tenant son menton, sa barbe dans la main. Et il médite sur quoi ? Sur la mort, sur la douleur, sur la mort qui s'approche. Encore une fois, il a presque 90 ans. Il vit dans sa belle maison de Biri Grande à Venise, et il est dans l'angoisse. Et son dernier tableau, je vais vous le montrer maintenant, il l'a peint pour sa propre tombe. C'est une Pietà qui représente donc le Christ mort dans les bras de sa mère, comme on l'a peint tant de fois au Moyen-Âge et à la Renaissance. Marie-Madeleine, et puis le vieux Nicodème, qui est encore un autoportrait, c'est absolument évident. Alors ce tableau est fascinant, on peut le regarder pendant des heures et des heures. D'abord sa composition, avec cette fermeture derrière, Moïse et la Sibylle, les deux statues, à gauche et à droite, et puis cette espèce de triangle Donc je dirais que c'est une espèce de crescendo de l'émotion. Vous avez d'abord ce vieux rampant qui rampe par terre en touchant le corps du Christ mort, et qui est encore une fois Titien lui-même, on le reconnaît. Le Christ, qui est presque en putréfaction, l'émotion de la mère qui tient son fils mort sur ses genoux, dont le visage est tellement émouvant, et puis ce personnage qui se retourne en hurlant, Marie-Madeleine. Vous savez, si vous regardez toutes les peintures de toute l'histoire représentant la mort du Christ, vous avez toujours Marie-Madeleine qui est là pour nous émouvoir par sa beauté, sa gentillesse, sa sensibilité. Toute l'histoire de l'Évangile et de la peinture sont là pour cela. Et le Titien, pas du tout. Il l'a fait se retourner en hurlant, en disant « Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons tué Dieu. » Voilà le dernier tableau du Titien, dont on pense qu'il l'a fait dans la dernière année de sa vie. Et quelque temps après, se déclare la peste à Venise, dont je crois qu'on va vous parler encore ce matin. Mais il y a encore quelque chose de plus impressionnant et de plus émouvant dans ce tableau. C'est ce que le Titien a peint probablement dans ses derniers jours. Et il a rajouté, avec une, comment dire, naïveté et une maladresse incroyable. Encore une fois, rappelez-vous les tableaux de sa jeunesse. Il a rajouté en bas à droite de ce tableau, sous la statue de la Sibylle, un tout petit tableau qui est fait avec une incroyable maladresse. Il a fait ça avec ses doigts. Vous avez la Vierge, mais cette fois elle est dans un nuage qui tient son fils mort, et puis le Titien qui est fait comme ça, cette espèce de vieux bonhomme qui prie, avec derrière lui son fils aîné, son fils chéri, qui vient d'attraper la peste et qu'on vient d'emporter au lazaret. Voilà le dernier tableau du Titien, et avouez qu'on ne peut pas le regarder sans émotion. Ce grand peintre, cet immense peintre, qui a peint pendant 75 ans, il a commencé, il était tout jeune, il a terminé jusqu'à ses derniers jours, il a continué jusqu'à ses derniers jours, et chaque fois, il nous émeut, il nous impressionne. C'est la grandeur de l'art, ce n'est pas seulement de faire du beau, c'est d'être capable de nous émouvoir quelquefois jusqu'aux larmes.
Le promeneur qui se trouve à Venise, sur le Zatter, les quais le long du canal de la Giudecca, peut apercevoir sur la rive opposée la Chiesa del Redentore, l'église du Rédempteur. Cette église fut construite sur les plans de Palladio en 1576, à la fin de l'épidémie de peste, au cours de laquelle le tiers environ de la population vénitienne a péri, est Titien, presque nonagénaire. Cette église a été construite en action de grâce à la fin de cette épidémie, et à partir de cette date, une messe sera célébrée tous les ans, au cours de laquelle le doge et le conseil vont accéder à l'église sur un pont de barque, comme le montre cette peinture de Joseph Heinz le Jeune. Alors la peste de 1576 est un épisode marquant de l'histoire de la peste en Occident, au même titre que la peste de 1665 à Londres ou la peste de 1720 à Marseille. Mais en fait, il s'agit de la même pandémie de peste, une pandémie qui va s'étendre sur 4 siècles, la fameuse peste noire. Et en fait, Cette épidémie de peste aura débuté en 1347. Elle se sera propagée en Occident à partir de Port, à partir de Messine, de Marseille, de Constantinople. Et son point de départ, c'est un comptoir génois sur la mer Noire. Et il se trouve que les Génois sont attaqués par les Tartares. Et pendant le siège, la peste se produit dans le camp des Tartares, qui vont être obligés de se replier. Et par représailles, le chef des Tartares va catapulter les cadavres de pestiférés dans le camp des Génois. C'est le premier épisode de guerre bactériologique. Et à partir de là, les Génois vont fuir et, comme le montre cette carte, ils vont débarquer dans les différents ports que j'ai cités, et c'est ainsi que la peste, la fameuse peste noire, va se répandre en Occident. Elle arrive à Venise en 1347. Elle va évoluer jusqu'en 1352 et, comme je l'ai dit tout à l'heure, exterminer pratiquement le tiers de la population vénitienne. Et le fils de Titien, mais peut-être Titien, qui était quand même presque nonagénaire et qui est peut-être également mort des maux du grand âge. Alors, je voudrais vous montrer ce tableau très impressionnant du Tintoret qui se réfère à un épisode biblique des Nombres, dans le Pentateuque, où il se réfère à une punition divine vis-à-vis du peuple d'Israël qui avait péché, et on lui a envoyé des serpents. Alors, généralement, la peste est représentée par des flèches, mais ici, par des serpents. En fait, ce tableau a été peint par Tintoret en 1576, et c'est une métaphore, c'est une vision de la peste, avec les cadavres tels qu'ils s'accumulent dans les rues de Venise. Alors, qu'observe-t-on à Venise au cours de cette épidémie ? D'abord, le déni pour la raison d'État. En effet, Venise n'a pas du tout intérêt à ce qu'on sache que la peste y sévit, car elle est une tête de pont maritime entre l'Orient et l'Occident. Elle commerce beaucoup et le commerce pourrait s'interrompre. D'autre part, comme ce sont des îles, elle est très tributaire de la terre pour son approvisionnement. Et enfin, le Turc a été vaincu à Lépante il y a peu de temps, et bien entendu, si Venise se trouvait en état de faiblesse, eh bien, les hostilités pourraient reprendre avec les Turcs. Le deuxième point, c'est la rumeur. La rumeur, c'est l'épidémie dans l'épidémie, et on pense qu'il y a des semeurs de peste. On pense à la punition divine, on pense à des phénomènes célestes, mais on pense également à des semeurs de peste qui peuvent être des voyageurs, des mendiants et éventuellement des juifs. Mais alors qu'il y a des pogroms qui vont se dérouler un peu partout en Europe, ce ne sera pas le cas à Venise, parce que vous savez que Venise a inventé le ghetto. Les Juifs se retrouvent tous dans l'île du Canareggio, ils vivent dans la promiscuité et ils vont payer un tribut encore plus lourd que le reste de la population de Venise à la peste. On peut difficilement imaginer qu'ils soient eux-mêmes les semeurs de peste. Alors, bien entendu, la panique s'installe, on s'enfuit et on applique l'électuaire des trois adverbes, sitôt, longer, tarder, fuir au loin, aussitôt, longtemps, ce qu'une grande spécialiste de la peste, qui est plus connue par ses romans policiers, Fred Vargas, a traduit par « Pars vite et reviens tard ». On va observer dans la population, comme toujours dans les grandes périodes de crise, on va observer le courage et la lâcheté. Beaucoup fuient, mais quelques-uns restent, et notamment des médecins, puisqu'on a compté que 56 médecins vont périr en soignant les malades durant l'épidémie de peste. Et la population elle-même va manifester du courage alors qu'on est conduit en principe à ensevelir les cadavres discrètement. Eh bien, on va organiser des obsèques solennelles à Titien. Et j'ai retrouvé sur Internet ce tableau d'un peintre qui n'a eu de notoriété que le temps d'un salon, Alexandre Hess, qui a imaginé les obsèques de Titien à Venise. Et on voit la foule compacte qui va l'accompagner. Et Titien va rejoindre l'église des Frari, où il est toujours, en face du magnifique tableau de l'Assomption et de la Madone Pessaro. Alors, on s'interroge sur les causes du fléau. Je l'ai dit, on évoque des phénomènes célestes, le passage d'une comète. On évoque des émanations méphitiques, ce qui pourrait être plus particulièrement le cas à Venise. Mais également, on évoque la punition divine. Et ce sont des processions, des intermissions, des demandes d'intercession auprès des saints. Et en contrepoint au magnifique tableau que nous a montré M. Bossan de Titien à la fin de sa vie, je voudrais vous montrer un tableau de Titien sur l'autre versant. Titien a une vingtaine d'années et il peint ce tableau qui représente les principaux intercesseurs de la peste. Il l'a peint en 1510. 1510, c'est l'année où Giorgione meurt de la peste à 33 ans, encore la peste. Et sur ce tableau, il représente d'une part Saint Marc, le patron de Venise, qui est une métaphore de l'autorité responsable de la santé publique. Il peint Saint Damien et Saint Côme, les médecins, et il peint les deux saints intercesseurs de la peste. D'une part, Saint Sébastien, le corps percé de flèches. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a représenté souvent dans l'Antiquité la peste, et dans la Bible, mais également dans l'Iliade, la peste par des flèches. Et c'est ainsi que Saint Sébastien, qui n'avait strictement rien à voir avec la peste, qui était un brave centurion qui faisait du prosélytisme pour le christianisme, est devenu progressivement un intercesseur pour que cesse une épidémie de peste. Et à côté de lui se trouve Saint Roch, qui montre son bubon. Et c'est peut-être le moment de dire que la peste est une maladie infectieuse, on le saura bien plus tard, qui est due à une bactérie et qui est transmise par la puce du rat. Alors, dans sa forme la plus caractéristique, on parle de peste bubonique, c'est-à-dire que dans le territoire où a lieu la piqûre de puce, se produit un ganglion, un gros ganglion inflammatoire qui s'appelle le bubon, et puis l'infection se généralise, et généralement on meurt en 7 à 8 jours. Et il y a deux formes gravissimes. L'une qui est la peste septicémique, on meurt en 24 à 48 heures, et l'autre est la peste pulmonaire, qui est d'autant plus grave que la transmission ne se fait plus par la puce, mais d'homme à homme, par l'expectoration. Je vous ai montré sur une photo les deux grands découvreurs. Yersin, qui en 1894 découvre, lors de la troisième grande pandémie de peste, la peste de Hong Kong, découvre l'agent microbien responsable de la peste. Et Simon, qui aura quatre ans plus tard démontré que c'était le rat qui transmettait cette maladie. Mais comme j'ai cité Giorgione, comme j'ai cité Titien et Tintoré, on ne peut pas, parlant de Venise, ne pas citer Véronèse pour montrer qu'il a lui aussi été présent lors d'une des épidémies de peste. Il a peint les deux grands intercesseurs, mais il a peint surtout l'intercesseur majeur, qui est la Vierge, qui est auprès du Christ et qui prie son Fils de faire cesser l'épidémie. Alors, on ne fait pas que prier à Venise, bien entendu, et on est très pragmatique dans cette ville qui va se révéler pionnière. Elle va se révéler pionnière par des mesures qu'elle va prendre, qui vont faire école dans les autres villes d'Italie et qui vont également faire école en Occident. Elle va prendre trois mesures. Elle va créer des magistrats spécifiques de la peste qu'on va appeler les provveditori alla sanita, c'est-à-dire les provéditeurs, c'est-à-dire ceux qui prévoient et ceux qui pourvoient. C'est-à-dire ce sont des magistrats qui ont la responsabilité de l'enlèvement des cadavres, des inhumations, de redéployer les fonctionnaires pour pallier les vides administratives, d'assurer la salubrité de la ville, etc. Deuxième mesure, elle est prise initialement à Raguse, qui deviendra Dubrovnik et qui est sous la tutelle de Venise. On décide que les bateaux qui arrivent et leurs occupants restent un mois à l'entrée du port avant de pouvoir y parvenir et jusqu'à ce qu'ils aient démontré qu'ils étaient indemnes de peste. Et Venise, très rapidement, va étendre cette mesure à 40 jours. C'est la naissance de la quarantaine, appliquant le principe d'Hippocrate selon lequel le 40e jour est le dernier jour possible pour les maladies aiguës de la peste. Et enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, Venise va créer le lazaret, c'est-à-dire que l'on va dans une île qui se trouve entre Venise et le littoral, dans cette île qui s'appelle Santa Maria di Nazareth, d'où, par déformation, le mot va devenir Lazaretto, puis Lazare. Eh bien, dans cette île, on va isoler les malades, et puis très vite, l'île va être débordée. On va créer un deuxième Lazaret, El Lazaretto Nuevo, où l'on va plutôt mettre les convalescents et les patients en quarantaine. Et puis, cette île va être encore insuffisante, et lors de l'épidémie de 1576, on va créer un village de barques, un village flottant avec des cabanes où on va accueillir les pestiférés. Alors imaginez ces cadavres que je vous ai montrés tout à l'heure dans le tableau de Véronèse. Imaginez cette île avec, parce qu'on fait des fumigations de romarin et de genévrier pour combattre les miasmes, les vapeurs méphitiques. Il faut imaginer la tombée du jour avec les psaumes que l'on chante, les litanies. Et pendant ce temps, on soigne les malades. Alors, vous connaissez tous ce costume que revêtaient les médecins. En fait, il a été inventé par un Français sous Louis XIII, Charles Delorme. Et dans ce bec qu'il y avait dans le masque, on mettait des herbes odorantes qui étaient censées combattre la peste. Alors les traitements étaient ce qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire l'incision de bubons et de chasser les miasmes par des purgations et des fumigations. Et on pratiquait bien entendu la saignée à l'aide de la lancette dont on a pu dire qu'elle a fait plus de victimes que la lance sur les champs de bataille. J'en termine avec une dernière photographie. C'est Notre-Dame de la Salute, Notre-Dame de la Santé. La Salute fut construite sur des plans de Longuen. Ce joyeux baroque fut construit à la fin de la dernière épidémie de peste à Venise en 1630. Et voilà par conséquent une façon peut-être originale de visiter Venise, qui est un itinéraire de la peste, qui peut aller de l'église du Rédentor à Notre-Dame de la Salute, en passant par la Scuola San Rocco, au cours d'un rendez-vous avec Venise, qui est le titre d'un très beau roman de M. Bossan. Je vous remercie de votre attention.
C'était Paul Léofonte sur les différentes représentations picturales de la peste noire de Venise. Le précédait Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, et Philippe Bossan de l'Académie française, pour évoquer tour à tour les dernières œuvres de Nicolas Poussin et du Titien. Canal Académie vous propose trois autres retransmissions de cette journée du livre consacrée à l'œuvre ultime. Retrouvez sur notre site les communications consacrées à Matisse et Bartok, Koenig et Hartung, et enfin aux derniers instants de Molière sur scène alors qu'il jouait le malade imaginaire. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.